France Inter, le 18-20.
À la recherche de jeux de mots un peu faciles, on pourrait dire qu'Emmanuel Macron raccroche les wagons de la com depuis hier soir ou qu'il met sa com sur de meilleurs rails. De fait, il devait parler, il va parler deux fois même, deux publics différents, des ficelles assez grosses, la France rurale et à la retraite de Jean-Pierre Pernaut dans le 13h de TF1 et puis la vague numéro 2, cette fois on vise plus large, c'est dimanche soir et aussi plus contestataire avec notamment Edoui Plenel. Bref, des messages apparemment ne sont pas passés. À vouloir trop réformer, trop vite et trop fort, on finit peut-être par donner le tournis, à moins que le tournis, précisément, ce soit une stratégie. Cette affaire de SNCF est-elle le symbole d'un bouchon poussé trop loin ou la démonstration, une fois de plus, que c'est en allumant tous les feux en même temps qu'on trace sa route, alors que le sujet, vous le savez, est devant l'Assemblée nationale depuis ce lundi. En tout cas, méthode controversée, motivation parfois mal comprise. Il semble que ce qui passait en début de quinquennat peine désormais dans les montées et les colères en entraînent d'autres. Alors, fin de l'état de grâce, sûrement un premier vrai obstacle social sur la route du président ou juste un dos d'âne à passer. On en parle ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Christophe, c'est vous qui ouvrez le feu, j'allais dire non, qui ouvrez le bal. Allez-y, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de votre émission et de m'avoir invité. Voilà, je voulais dire deux choses. Moi, j'ai voté Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. Alors, c'est vrai que j'ai plus fait pour des raisons tactiques. Je voulais pas de François Fillon au premier tour. Je voulais pas de Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, j'ai voté Emmanuel Macron. Et en même temps, il y avait quand même une certaine forme d'adhésion à une partie de son programme. Mais là, je trouve que ça va un peu loin dans le sens où, grosso modo, j'ai l'impression qu'on tape toujours un peu sur les mêmes. Pour la réforme de la SNCF, la dette de la SNCF, c'est 55 milliards d'euros. Bon, on dit que c'est beaucoup, c'est vrai que c'est énorme, mais en même temps, la fraude fiscale, c'est 60 milliards d'euros par an. Donc, une année de lutte contre la fraude fiscale permettrait d'effacer, entre guillemets, c'est pas aussi simple que ça, mais bon, d'effacer l'ensemble de la dette de la SNCF accumulée depuis des décennies. Et il n'empêche que c'est les cheminots qu'on pointe du doigt, qui mettent la France en rideau, etc. Et par contre, les gros fraudeurs fiscaux, ceux-là, on leur dit rien. Au contraire, on dit que ce sont des premiers de cordée sur lesquels il faut pas jeter des petits cailloux, parce que sinon, etc., etc. Donc, moi, c'est ce deux poids, deux mesures qui commence un petit peu à m'exaspérer, voilà.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Christophe, qui démarre bien le téléphone sonne, pour discuter ensemble autour de la table ce soir. Dominique Seux est là, bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Directeur délégué de la rédaction des Échos, puis éditorialiste évidemment à France Inter. Laurent Geoffrin est là également, bonsoir. Monsieur
bonsoir.
Geoffrin, directeur de la publication de Libé, et Cyril Graziani du service politique de France Inter est là aussi. Tiens, Laurent Geoffrin, commençons avec nous, il doit y en avoir beaucoup, il y a un petit côté portrait robot peut-être dans Christophe en fait, qui a voté,
ah oui, je crois,
effectivement,
oui.
Mais qui là commence peut-être à trouver que trop c'est trop, non ? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le résumer ?
L'idée de départ, l'idée politique globale, c'était et de droite et de gauche. Et maintenant, on n'a ni de gauche ni de gauche. C'est-à-dire qu'on cherche vainement les mesures qui pourraient correspondre à, à un progrès social, quoi, dans ce que fait le gouvernement, dans ce qu'il annonce. Et s'agissant de la SNCF, le gouvernement était très violent, en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il a très mal engagé la discussion. Il a commencé par charger la barque à fond, à noircir le tableau de manière outrancière. La SNCF est présentée comme une entreprise au bord du gouffre. Ça ne peut pas durer, c'est insupportable, etc. Le lendemain de l'annonce, l'entreprise annonce des bénéfices, donc un peu bizarre. Et puis, on essaye de dire, ça coûte tant par Français, ça coûte 1000 euros. Enfin, il y a les chiffres divergent, mais coûte entre 300 et 1000 euros par Français. Mais rien que cette petite statistique-là, elle est très contestable, parce que dans cette subvention donc, qui est donnée effectivement par l'État à la SNCF, j'ai regardé ça, il y en a une partie qui est destinée à faire baisser le prix des trains régionaux. Donc le gouvernement se disposerait-il à doubler ou à tripler le prix des trains régionaux pour supprimer la subvention ? Ou bien il utilise ce chiffre de manière purement polémique pour expliquer à l'opinion, en essayant de jouer l'opinion contre les cheminots, que ça coûte beaucoup trop cher, il faut arrêter ça, etc. Ce sont des méthodes qui sont de l'ancien monde, de la droite la plus traditionnelle, quoi. C'est-à-dire consiste à dire, bon, il y a les grévistes, c'est honteux, la SNCF c'est un service public, donc ça perd de l'argent et c'est mal géré par définition, etc. Et quand vous regardez vraiment le dossier, c'est très contestable.
Dominique Seux, il y a deux choses à la fois dans ce que disait Christophe et dans ce que répond Laurent Geoffrin. Il y a la SNCF purement et puis il y a la méthode Macron aussi. Bah, sur la SNCF, d'abord pour commencer, ce que disait Laurent Geoffrin à l'instant.
Sur la SNCF, la situation n'est pas catastrophique.
Il y a oui,
même 5 millions de Français qui effectivement prennent des trains tous les jours. Il y a des trains qui arrivent à l'heure, bien sûr. Mais c'est quand même 13 milliards au total de subventions diverses et variées chaque année. C'est une dette qui est considérable, une dette qui est réellement considérable. Ça n'est pas rien du tout.
Mais cette dette et donc, vient pour beaucoup
non mais, okay, de l'investissement mais dans le TGV. Ça veut dire qu'une réforme est nécessaire. D'ailleurs, elle a été envisagée par à peu près tous les gouvernements qui ont décidé de la faire ou de ne pas la faire. Mais en tout cas, ça n'est pas tenable. Alors après, il y a une question de méthode. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est-à-dire qu'il y avait un moyen un peu différent de fonctionner qui était de dire la situation est difficile, l'État est prêt à faire via les contribuables un effort en effaçant la dette qui est une dette, j'allais dire, politique, de décision politique plus ou moins bonne, TGV, etc. On connaît le sujet. Et à partir de là, de dire, puisque les contribuables vont faire un effort considérable, les cheminots doivent en faire un aussi, et l'entreprise aussi. Ça, c'était une communication qui était possible. Ça n'est pas ce qui a été choisi. On a procédé à l'envers. Le gouvernement nous dit, en fait, on part sur le statut des cheminots et si tout se passe bien à la fin, eh bien, on effacera la dette. J'avoue, je ne comprends pas très bien la méthode. Mais le résultat est le même au fond. La réforme est nécessaire et à la fin, il faut quand même que le statut, qui est de l'ordre de 1,5 à 2 milliards d'euros par an, que ce statut évolue.
Sauf que la question, Dominique, ce qu'on entend beaucoup poser en ce moment, à laquelle on n'a toujours pas la réponse, c'est en quoi les trains arriveront plus à l'heure, en quoi ça marchera mieux, en quoi ce sera différent si cette réforme est faite telle que annoncée par Emmanuel Macron.
Alors,
sur les statuts, sur la dette, sur tout ça.
En fait. La réponse alors, gouvernementale, après on peut la commenter, mais c'est de dire, on s'engage à remettre de l'argent sur les investissements sur des lignes qui ne sont pas les TGV entre Aix-en-Provence et Marseille, la voie qui n'est pas celle du TGV, il y en a qu'une et les trains alternent, il y a qu'une voie, c'est quand même un truc de fou et il y a plein d'endroits en France où ça fonctionne manifestement pas très bien. Donc investir d'abord là où c'est nécessaire. Et puis faire des économies, notamment sur le statut. Mais ce sont des économies qui seront à 10, 20, 30 ans, hein, puisque c'est une extinction progressive du statut pour les entrants. Donc c'est pas
le prix du statut, est-ce qu'on peut rappeler combien ça coûte le statut
Ça dépend ce qu'on met dans les statuts. Ils ont 1,5 milliard à 2 par an, mais ça dépend ce qu'on met dedans.
Voilà. Il y a quand même une chose frappante, c'est que.
Une dette, enfin je veux dire, c'est rien par rapport à la dette, on est d'accord, en soi.
Bah,
le prix que coûte, le prix, non mais d'accord, mais le prix que coûte...
Non mais il y a une chose à rappeler, c'est que il y a eu un incident de séance, ça s'est mal passé, la négociation, la fin de la semaine dernière. Une des raisons, c'est que les syndicats, tous les syndicats, y compris les plus modérés, ont demandé au gouvernement une étude d'impact pour savoir combien ils comptaient économiser grâce à la suppression du statut, à terme. Pas de réponse. Le gouvernement est incapable de répondre à ça, manifestement. Et qui peut répondre, d'ailleurs, puisque ce sont des chiffres difficiles à mesurer, d'une part. Et d'autre part, il n'est pas du tout certain qu'on était obligé d'abolir le statut pour améliorer la situation. D'ailleurs, Dominique Seux l'a dit lui-même, il dit qu'il faut le faire évoluer. Mais évoluer, c'est le faire évoluer, ça n'est pas le supprimer. Et donc, on pouvait très bien, à mon avis, j'ai l'impression que c'est ça qui se dégage des batailles d'experts, c'est que on pouvait très bien éviter de supprimer ce statut, cette suppression étant vécue comme un chiffon rouge par tous les syndicats, tous.
Cyril Gardiani, avant qu'on retourne au standard, un mot sur la méthode Emmanuel Macron. Dominique Seux disait à l'instant qu'effectivement, l'ordre était assez incompréhensible. En fait, la manière dont les choses avaient été amenées politiquement, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit autour de l'équipe Macron sur la méthode?
Au-delà de la méthode, là, ce qui paraît frappant, c'est qu'il y avait une nécessité, en tout cas de la part de l'Élysée, de prendre la parole. Ce qui a été assez curieux, c'est que la semaine dernière, on a essayé de nous expliquer que c'était le gouvernement qui était en première ligne, c'était le Premier ministre qui montait au front. Et là, d'un coup, on apprend qu'il y a ce que certains ont appelé la double détente. Emmanuel Macron qui parle sur TF1, qui parlera sur BFM TV pour essayer de redonner un cap, de refixer les priorités, comme si c'était à lui, aujourd'hui, de reprendre la main. Et c'est en ça qu'il y a une forme de contradiction entre ce qui nous a été dit la semaine dernière et ce qui est dit là aujourd'hui.
Marc, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Soyez le bienvenu, Marc.
Question très courte. Donc, depuis l'élection de M. Macron, je suis retraité, donc je suis vraiment attentivement toutes les interviews et interventions. Je trouve qu'à chaque fois quand il parle de la réforme, que ce soit M. Macron, le Premier ministre, les ministres, tout le monde, il y a des notes d'arrogance assez fortes. et de limites un peu provocation. Je me demande pourquoi faire. On est sur une affaire très très importante. Je pense qu'au contraire, il faudrait chercher l'adhésion de tout le monde. Voilà.
Et merci pour cette remarque, en forme de question, Marc Dominique Seux, encore une fois. Peut-être que là aussi, on est sur l'approche, en fait, tout simplement, d'Emmanuel Macron, qui est difficilement comprise là-dessus.
Au bout d'un an.
Et sur d'autres, d'ailleurs.
Non, mais au bout d'un an, il est totalement logique que les choses apparaissent plus difficiles. Il y a eu énormément de choses. Le président de la République a choisi une communication qui est rare, enfin, qui est à la fois permanente par l'image, qui est contrôlée, voilà, qui est permanente par l'image, et dans le verbe, assez rare quand même, puisque les dernières interviews télévisées, c'était le 15 octobre, dans mon souvenir, puis une conversation sur France 2 avec Laurent Delahousse, un dimanche soir en marchant.
La fameuse déambulation.
Donc il s'exprime, il répond aux questions des Français de façon assez rare. Donc il est tout à fait logique qu'il veuille s'exprimer. Je crois qu'en fait, sa double intervention, c'est le moment SNCF, mais c'est bien au-delà. En réalité, l'Élysée s'interroge depuis des semaines sur que fait-on pour les 1 an. Alors les 1 an, ça devrait être le 13 ou le 14 mai. En fait, ça va démarrer bien plus tôt parce que tout le monde va commencer à en parler à partir de maintenant. Donc il va essayer d'élargir au-delà de la SNCF.
Ça va être une interview bilan ou plus qu'une interview SNCF. En tout cas, essayer de sortir du thème.
Ça va être une interview. Regardez ce que j'ai déjà fait et il me reste encore des choses à faire. C'est-à-dire mon quinquennat ne s'arrête pas maintenant le 15 avril ou 15 mai.
Mais dans la question de la personne dont j'ai oublié le prénom, il y avait l'aspect un peu arrogant, en fait, derrière. Je voudrais qu'on revienne un peu à la méthode. On entend parler, on entend dire autoritaire, on entend prononcer ces mots-là.
Ça ressort énormément.
Qui ne ressortaient pas avant, en fait, qui n'existaient pas avant. Est-ce qu'on est en train de découvrir un Emmanuel Macron qu'on ne connaissait pas simplement parce qu'on n'avait pas eu le temps de connaître cet Emmanuel Macron ou pas ?
Non, je crois pas que. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait l'arrogance. Il y a une manière de fonctionner avec les corps intermédiaires qui est très très différente des prédécesseurs. C'est vrai qu'il fonctionne plutôt sur la verticalité. Et la verticalité, non pas du down-top, mais plutôt top vers down. Mais après tout, quand même. Les dernières grandes grèves de la SNCF, c'était quand ? C'était 2004, des réformes des retraites à chaque fois, 2004, 2008, 2010. Les Français s'en souviennent, c'était d'abord, faut-il aligner l'âge de la retraite des fonctionnaires sur celui de l'ensemble des Français ? Ça nous semble quand même presque, j'allais dire, un truc de dingue aujourd'hui. En 2008, c'était, faut-il aligner le régime spécial de retraite des agents de la SNCF sur celui des autres Français. La immense majorité des Français a envie de dire aujourd'hui, 10 ans plus tard, oui, évidemment. Et 2010, la même chose. Le raisonnement du gouvernement, c'est de se dire, oui, on peut discuter à l'infini, mais de toute façon, une partie des syndicats, notamment la CGT, ne voudra jamais bouger et veut conserver un statut totalement inchangé. Donc, comment entrer dans une discussion à deux si au moins une des deux parties ne veut absolument pas bouger ?
Laurent Geoffrin, avant qu'on retourne au standard, et puis Cyril, bien sûr, aussi, est-ce que le fait d'aller vite et sur tous les fronts en début de mandat, ça c'était ce qu'il avait dit, Emmanuel Macron ?
Oui, c'est vrai. Enfin, il n'avait pas dit qu'il ferait des ordonnances pour réformer la SNCF. Ça, c'était pas dans le programme.
On n'y est pas encore aux ordonnances, là, pour réformer la SNCF.
Ben, c'est ce qui est annoncé, quand même. C'est la démarche qui a été choisie. On consiste à non pas faire un long débat parlementaire ou négocier avec les corps intermédiaires, comme vous dites.
Finalement, il y en aura un peu moins que prévu des ordonnances, semble-t-il.
Voilà. Oui, c'est vrai, mais ça consiste quand même à aller extrêmement vite sur un point qui n'était pas au programme. Les ordonnances travail, c'était au programme.
Ça, c'était dit.
Donc là, il n'y avait pas grand-chose à dire du point de vue de la méthode. Mais là, ce n'est pas le cas. Et par ailleurs...
Sur tous les fronts la première année. En fait, c'est exactement ce qu'on avait reproché à François Hollande.
Quitte à perdre
rien la première année. Donc, allons-y.
Oui, on avait reproché.
On verra bien. Moi, ça ne me choque pas qu'on veuille appliquer son programme et qu'on veuille faire des réformes. C'est la moindre des choses. Mais après, dans le cas de la SNCF, on a le sentiment qu'il y a une volonté d'humilier l'adversaire. Et non pas de le prendre comme un partenaire de discussion avec qui on a des conflits, mais d'humilier, c'est-à-dire on va tout gagner et vous allez tout perdre. Donc il n'y a rien de substantiel à négocier. Vous n'aurez plus votre statut, en tout cas les nouveaux entrants n'auront plus le statut. Ça sera le statut de l'entreprise sera changé, que vous le vouliez ou non, et etc., etc. On applique le plan qu'on a décidé soi-même après avoir noirci la situation de l'entreprise de manière absolument inconsidérée. Et effectivement, ça va maintenant, si ça reste comme ça va se terminer par l'humiliation de l'un ou de l'autre. Je ne vois pas en quoi c'est moderne, ça. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en quoi il est moderne.
Vous allez un tout petit peu loin, Laurent, sur noircir.
D'écraser l'adversaire.
Vous allez un tout petit peu loin, Laurent, sur le. Non, mais sur. On noircit la situation de la SNCF.
Mais je ne dis pas qu'elle est absolument rose.
De manière inconsidérée. Je pense que tous les Français qui vivent des retards, qui vivent des matériels qui ont des pannes, etc., ont une opinion un petit peu différente sur l'état de la SNCF, qui a mille qualités quand même. Mais. Si les sondages montrent encore aujourd'hui...
Est-ce que les retards ou est-ce que le manque de matériel est lié au statut ?
Comment ?
Est-ce que le manque de matériel est lié au
statut ? Non, mais j'ai dit ce que je pensais sur la méthode.
Et peut-être que le statut, on en parle beaucoup d'ailleurs. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Thierry, allez-y.
Bonsoir. En bref question, le président de la République descend dans l'arène pour des détails ras des pâquerettes. Est-ce que ce n'est pas le rôle du Premier ministre ?
Merci beaucoup pour cette question, Thierry. Alors, ras des pâquerettes, c'est une manière
c'est
de voir.
Très gentil pour les cheminots, pour les SNCF. Mais c'est quand même un sujet important, le transport public.
La descente dans l'arène, Cyril Gradiani, lui-même.
Il y avait, je pense, une nécessité, là, dans les jours qui venaient, d'entendre le président de la République. Mais pour revenir à tout à l'heure, ce qu'on disait sur l'arrogance et compagnie, c'est vrai que ce qui ressort de plus en plus, c'est pas tant de l'arrogance, c'est surtout qu'il y a une vraie fracture avec certaines catégories, comme les employés et les retraités. C'est d'ailleurs pour ça, on peut le dire, qu'il a choisi le journal Le Trésor de Jean-Pierre Pernaut, car c'est des catégories sociales qui sont de plus en plus critiques. Et il y a certes l'arrogance, mais il y a aussi des critiques récurrentes comme « il n'écoute pas, il est sourd, il fait certes ce qu'il a dit, mais en tout cas il n'entend plus ce que nous on a à dire ».
Sur le public du JT de 13h de TF1, il ne faut pas non plus le caricaturer. Ce ne sont pas que des gens à la retraite ou des gens en milieu rural. Vous savez qu'au-delà de Paris, il y a beaucoup de gens qui rentrent déjeuner et donc c'est quand même 5 millions de téléspectateurs et qui effectivement ne bénéficient peut-être pas de beaucoup d'attention, en tout cas médiatique.
En tout cas, il y a un public, clairement, pour le 13h de TF1, Laurent Geoffrin. J'imagine que ce n'est pas par hasard qu'on va chercher ce journal-là.
J'imagine que ça vient d'une analyse de l'état de l'opinion. J'ai vu plusieurs sondages qui tendaient à montrer que la politique Macron est massivement approuvée chez les classes dirigeantes, chez les cadres, les gens qui vont bien, plutôt bien, quoi, qui sont plutôt en haut de la pyramide, qui sont du côté du manche. Et puis, elle est massivement critiquée, sinon rejetée, par les classes populaires. Donc là aussi, le est de droite et de gauche, on le voit plus. Là. On l'a perdu de vue.
La petite alerte qui a retenti dans le bureau d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines, c'est sur le 80 km/h. Ça semble évidemment, c'est non politique, c'est hyper technique, mais ça concerne évidemment très impliquant. Et à l'Élysée, ils n'avaient pas anticipé qu'en fait, ça pourrait soulever quand même un certain nombre d'interrogations sur Paris décide pour l'ensemble de la France.
Preuve que ce sont
avec les remontées de terrain, ils se sont dit, il y a peut-être quand même une partie de notre discours qui n'est pas entendue et compris.
Bonsoir Samuel.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute Samuel.
Oui, merci de prendre mon appel. Alors moi, je me posais la question. Je voulais savoir si c'était pas un peu démagogique de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'opposer, encore une fois, hein, comme l'ancien monde, comme vous dites, les cheminots, là en l'occurrence, et le privé. Dans le sens où moi, je vais supprimer les avantages et les privilèges de ces fonctionnaires et de ces cheminots. Voilà, je me posais cette question-là parce que elle m'a sauté aux yeux.
Écoutez, Samuel, si vous vous la posez, on essaiera d'y répondre. Est-ce qu'il y a cette forme d'opposition, Laurent Geoffrin, selon vous, dans l'esprit d'Emmanuel Macron et du gouvernement et des réformes, en tout cas ?
Ce qui me frappe, c'est que c'est pas nouveau, ça, mais plusieurs gouvernements l'ont fait. Mais on parle toujours de réformes, donc ceux qui s'y opposent sont immédiatement rangés dans le camp des conservateurs, des gens qui veulent rien changer, des immobilistes, etc. Or, les réformes dont on parle ne sont jamais des progrès sociaux. C'est quand même frappant, ça. Il n'y a jamais de réforme consistant à dire, finalement, on va peut-être augmenter les salaires, on va peut-être améliorer la protection des travailleurs dans tel ou tel domaine. Jamais. C'est toujours des sacrifices. Toujours des sacrifices. Et dans le cas de la SNCF, c'est très clair. On vous explique, voilà, il faut ouvrir à la concurrence, on a signé un traité européen, on est obligé de le faire, et la conséquence de cette modernisation, de ce nouveau monde, finalement, c'est que vos protections vont être diminuées, et vos salaires, ils ne vont pas baisser probablement, mais ils n'augmenteront plus à la même vitesse.
Dominique Suez, qu'il y a eu une tentative d'abord de les Français contre les cheminots et puis ensuite le public contre le privé. Est-ce qu'on peut arriver à cette espèce de guerre-là dont parlait notre auditeur à l'instant ?
Je pense que dans les pays occidentaux, la croissance est plus faible qu'il y a une quinzaine d'années. Et vous avez des grandes puissances mondiales qui s'invitent à la table de la croissance économique et donc qui réclament leur part tout à fait légitimement de richesse, de mieux vivre. Dans les pays occidentaux, il ne s'agit pas de faire baisser les acquis sociaux, il s'agit de les répartir différemment.
Je ne vois pas qui va gagner à la suppression du statut des cheminots. Quel est le salarié qui va en bénéficier, qui va voir son salaire augmenter ou va voir ses protections s'améliorer?
Je vais essayer d'y répondre. Il me semble que quand vous faites des économies sur des statuts, ce que certains pourraient appeler des rentes, vous aurez les moyens, en termes de finances publiques, de dégager des moyens pour l'assurance maladie, par exemple. Les dépenses d'assurance maladie, depuis une quinzaine d'années, elles augmentent bien plus vite que la richesse nationale. Bien plus vite que les prix. Ça veut dire que chaque année, nous consacrons davantage d'argent sur l'assurance maladie. On pourrait prendre d'autres exemples, mais celui-là est frappant.
Peut-être lié au fait qu'il y a plus de gens âgés.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une répartition différente. Et il est normal que la répartition de la richesse, c'est-à-dire de la dépense collective, de la redistribution, évolue au fil des décennies en fonction des besoins. Et le choix collectif, c'est de dire, en l'occurrence là sur la SNCF, on va essayer de dépenser un peu moins sur la SNCF, en la rationalisant, en mettant un peu de concurrence, parce que dans la plupart des pays qui ont agi et qui ont installé la concurrence, ça s'est plutôt traduit par un meilleur service collectif, disons service public si vous voulez, pour dégager.
Alors, pas forcément
des
tout de suite, ça a été quand même moins évident que ce que vous dites, Dominique. Honnêtement, ça dépend des pays. La Grande-Bretagne, ça s'est pas passé tout de suite très bien.
La Grande-Bretagne, c'est complètement différent parce que la Grande-Bretagne, c'était une privatisation.
Il y a des cas qui sont contrastés.
Quand vous comparez les performances de la SNCF à celles d'autres compagnies de chemin de fer, c'est difficile de dire la SNCF est nulle et les autres sont très bons.
Sur la ponctualité, si.
Regardez le prix des billets, par exemple.
Ah ben, il est subventionné.
Il est subventionné
à 75% en Île-de-France.
Tous les systèmes ferroviaires sont subventionnés. Tous sont subventionnés.
Mais il est subventionné largement plus en France, ce qui fait des prix d'ailleurs de billets.
Oui, mais alors, donc vous voulez augmenter le prix des billets? C'est la vérité des prix. Donc on augmente le prix des billets.
Non, je dis pas qu'il faut augmenter.
Les gens vont être contents, là. Ils vont être très contents.
Non, je dis pas qu'il faut augmenter. Je pense qu'on peut
rationaliser.
Ça s'appelle
le service public. C'est pas toujours rentable, le service public. C'est pas soumis aux mêmes critères de rentabilité.
Mais personne ne dit qu'il doit être absolument rentable et qu'il faille augmenter le prix des billets. Mais en revanche, il est manifeste que le prix des billets est davantage subventionné en France que dans d'autres pays et qu'il y a des réserves de productivité ne paraît pas totalement inconséquent.
On pouvait les mettre en œuvre sans forcément abolir ce statut qui est un symbole, une tradition salariale française très importante aux yeux des cheminots. Et bon, c'est facile de dire tout ça, service public, c'est vieux truc,
mais personne
statut des cheminots, c'est archaïque, etc. Les gens le prennent très mal, parce qu'à l'intérieur de ce statut, ils font des efforts. On ne peut pas dire que les salariés de la SNCF n'aient produit aucun effort. Au contraire, il y a eu des changements,
Bien sûr, mais reconnaissez que le départ en retraite à 52 ou 57 ans est quelque chose
atypique. La retraite, d'abord, n'est pas dans cette...
Qui n'est pas dans la réforme.
Deuxième point, elle a été modifiée, la durée de cotisation a été augmentée. Donc si vous partez à 53 ans, comme vous le dites, ce que vous oubliez de dire, c'est que vous avez une retraite minuscule, puisque vous n'avez pas la durée de cotisation. Et donc ce privilège n'en est pas un, vraiment. C'est un avantage, on peut dire éventuellement. C'est les gens qui veulent absolument partir très tôt, mais ils ont une retraite toute petite.
En 2016, l'âge moyen de départ a été autour de 54 ans.
Donc et retour au standard, ça s'appelle toujours le téléphone sonne, Dominique. Bonsoir Esteban.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, Esteban, on vous écoute.
Oui, alors je vous appelais parce que j'ai l'impression que l'un des problèmes qui se pose est le fait qu'il y a un gros problème de représentativité en fait du pouvoir en place par rapport aux élections législatives, dans la mesure où en fait c'est vrai qu'il y a 310 députés de la République en marche actuellement à l'Assemblée nationale, mais ils reposent sur 16,6% du corps électoral en fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu moins de 8 millions d'électeurs. Et au final, ils se retrouvent avec plus de la moitié de l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, il y a eu plus de 60%, enfin, pour la première fois de toute la Ve République, il y a eu plus d'abstention, 60%, en comptant les votes blancs et nuls, au deuxième tour des législatives. C'est-à-dire que du coup, le pouvoir législatif devrait reposer sur le peuple français, parce que tout le monde dit « le peuple français a voté pour Macron ». Non, en fait, il repose sur moins de 8 millions de personnes. Et donc ça, ça fait un gros problème, puisque sans député, sans légitimité populaire, c'est difficile de gouverner, en fait. D'ailleurs, Chirac, quand il a perdu les législatives en 97, par la suite, c'est plus du tout lui qui était président, c'était Jospin, parce que c'est les députés et c'est la légitimité populaire qui fait le pouvoir. Et après, l'autre problème que j'ai, c'est, on retrouve le même au présidentiel, hein, 27 millions de personnes n'ont pas du tout voté Macron, puisqu'ils sont soit abstenus, soit ils sont votés pour le FN. Et il y a seulement 20 millions de personnes qui ont voté Macron, par rapport à 27 millions qui n'ont pas du tout voté pour lui.
Lange, on fera un argument classique, j'allais dire celui d'Esteban, parce qu'on l'a beaucoup entendu, c'est ce procès en légitimité. Oui, qu'est-ce qu'on fait de cet argument-là?
C'est un procès qui consiste à dire le système électoral n'est pas le bon, il faudrait en changer. Il n'y a qu'une seule réponse possible, logiquement, c'est d'instaurer un système proportionnel. Comme ça, chacun est représenté à proportion des voix qu'il a eues. Mais ça suppose, il faut savoir ce que ça veut dire comme conséquence, ça veut dire qu'il faut faire des gouvernements de coalition. Or, en France,
on n'a pas forcément
que les gens
ont
encore cette mémoire, quand il y avait des gouvernements de coalition, les institutions étaient méprisées, parce qu'elles donnaient le sentiment de ne pas donner un cap au pays, ce qui n'était pas tout à fait vrai, d'ailleurs, ça se discutait sous la 4ème République, mais cet héritage historique, qui est peut-être inconscient, demeure. Et d'autre part, si vous instaurez une proportionnelle intégrale, est-ce que vous maintenez l'élection du président au suffrage universel? Parce que là, le président élu au suffrage universel, il l'est forcément sur un scrutin majoritaire. Donc il va reposer au premier tour sur une base assez étroite. Et tous les présidents, peu ou prou, ont été soumis à la même chose. Et donc supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est retirer aux citoyens le droit de désigner leur principal dirigeant. Je ne suis pas sûr que ça convienne non plus aux Français.
Dominique, si je vous entendais réagir.
Oui, non, c'est la question de la place donnée aux abstentionnistes. Les abstentionnistes ont fait le choix de ne pas intervenir. Donc, quels candidats à la présidence vont-ils porter? On peut dire quand même qu'au premier tour de la présidentielle, la plupart des courants de pensée, ou la totalité des courants de pensée en France, étaient présents. Républicains, extrême-gauche, extrême-droite, et donc... Qu'une partie de la population n'ait pas voulu s'exprimer à cette occasion-là, en fait, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron n'a pas de légitimité. Faire un procès en légitimité du président me paraît totalement infondé sur ce terrain-là.
Et alors, Laurent Geoffrin, avant qu'on retourne au standard, on voit la rue qui s'exprime en ce moment, mais est-ce qu'il y a une force politique pour ramener ce qui est en train de se passer dans la rue aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a une force politique derrière
pour donner de la puissance à ça ou pas? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des gens qui s'intitulent ou se
faut que ça se traduise en politique. Faut que ça
Les porte-voix du mouvement social. Il y a des syndicats, ils en ont pour ça, ils s'expriment et ils le font chacun à leur manière et de manière tout à fait légitime. Ensuite, les députés, les partis peuvent se prononcer sur la réforme en disant il y en est pour, on est contre, etc. Ultra politiser le mouvement, ça me paraît pas très conforme à la réalité de la SNCF. Les cheminots, ils sont divers politiquement, ils sont pas tous d'un côté ou de l'autre. Ils défendent une certaine idée de leur entreprise et de leur service public. C'est pas la peine de les diviser en leur collant une étiquette politique.
Sauf qu'on va au-delà des cheminots aujourd'hui. Est-ce qu'on va au-delà des cheminots aujourd'hui, selon vous, ou pas encore, ou pas du tout?
Dans le mouvement social,
par exemple.
C'est difficile à dire. Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment de signes. Il n'y a pas de signes concrets, il n'y a pas d'exemples. Où il y aurait une convergence des mots d'ordre, une convergence des organisations, des revendications, ça ne se produit pas. Il y a plusieurs mouvements divers et variés qui sont concomitants ou qui sont simultanés, mais on ne voit pas comment, pour l'instant, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, ça, il n'y a pas de plateforme commune ou de tactique commune.
Cyril Graziani, avant qu'on écoute Sophie.
Pour réagir à ce que disait Dominique tout à l'heure, et ce n'est pas un jugement personnel, mais ce qu'on entend de plus en plus est... qui hérisse énormément de Français, c'est lorsque le gouvernement explique Emmanuel Macron a fait ce qu'il a promis pendant la campagne. Or, et ça on l'a entendu d'ailleurs avec le premier auditeur, beaucoup disent on n'a pas voté pour Emmanuel Macron au second tour, on a voté contre Marine Le Pen. Et on est dans un phénomène qui rappelle un peu 2002, où vous avez 80% des Français qui votent pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac est réélu, et pour autant, il n'a pas entendu le message qu'avaient passé les Français. Et ça, le risque peut-être, et ce qui commence peut-être à inquiéter aussi à l'Élysée, c'est que ça germe de plus en plus dans l'esprit des Français.
Est-ce qu'il germe dans l'esprit des Français, Dominique Seux, que effectivement,
avec une vraie cassure, avec une vraie fracture à terme,
qu'il fallait gouverner, qu'on gouverne différemment quand on est élu différemment. En gros, c'est un peu le sens de ce que demande Cyril, si j'ai bien compris.
La grande différence, quand même, avec le quinquennat précédent, c'est que François Hollande est arrivé et a fait une politique, en tout cas une année plus tard, qui n'avait pas été annoncée. Là, il n'y a pas. Il y a des choses qui sont faites, qui ne sont pas faites exactement de la façon dont Emmanuel Macron l'avait annoncé dans la campagne. Il a rajouté un certain nombre de choses. C'est vrai que sur la SNCF, ça n'était pas extrêmement clair, mais sur la quasi, disons, sur 90% des choses qui sont faites depuis un an, elles avaient été annoncées dans la campagne.
Donc, elles sont passées, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, elles sont passées. Et donc, ça veut dire que le procès en légitimité, encore une fois, est compliqué à faire. Après, évidemment, quand le vent, la brise sera un peu plus fraîche, que la conjoncture ralentira parce que ça arrivera à un moment ou à un autre, quand si le chômage ne baisse pas autant qu'il le faudrait, que ce serait absolument nécessaire dans les mois qui viennent, évidemment, des comptes seront demandés et en disant des réformes ont été faites, pour quel résultat, quand. Mais ça, à mon avis, c'est plutôt le rendez-vous qui n'est pas celui de maintenant, c'est celui de après l'été. Voilà, pour une deuxième partie de quinquennat, mais qui commencerait même avant la moitié.
D'ailleurs, il a fait quasiment la totalité de son programme présidentiel. Ça veut dire qu'il fera quoi après, une fois que le programme sera totalement éclusé?
Donc on a fini dans les deux premières années, c'est fini.
Une nouvelle respiration, mais comment, avec quoi?
Il reste la réforme des retraites, qui est quand même quelque chose d'important qu'il avait évoqué dans sa campagne. Et puis il y a les rendez-vous européens. Sur lesquels il a jusqu'aux élections du printemps 2019. Donc là, et c'est un gros chantier et qui s'annonce, à mon avis, bien plus compliqué qu'on ne le croyait il y a encore quelques mois, que lors du discours de la Sorbonne, puisque les choses se présentent plutôt mal, avec une Allemagne qui n'a pas vraiment envie de bouger, des pays du nord de l'Europe qui n'ont pas tellement envie de bouger. Et donc, il a encore, je crois, beaucoup de choses sur son bureau.
Avec un nouveau discours européen, du coup, la semaine prochaine. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir.
On vous écoute, Sophie. Soyez la bienvenue sur Inter.
Écoutez, moi, je ne sais pas s'il y a une convergence des mots d'ordre ou une convergence des organisations, mais ce qu'il me semble quand même, c'est qu'il y a une convergence certaine des mécontentements. Et que cette convergence est d'autant plus grande qu'on voit que même des gens qui avaient eu la naïveté de voter Macron, je ne sais pas si on peut leur pardonner, mais en tout cas, ces gens-là s'aperçoivent que, un, ils gouvernent à droite toute, et donc, ils sont déçus, et que quand ils défendent ces idées, les gens, Macron et les gens d'En Marche, là, ils le font avec une arrogance telle que ça ne peut qu'irriter. Même Raphaël Glucksmann, hier, le soulignait, notamment, par exemple, très récemment, Gabriel Attal, qui nous a parlé de leur... Enfin, qui a eu un mépris pour les grèves énormes.
La gréviculture.
Ouais, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais enfin, bon, c'était fou, quoi. Donc, ça, ce n'est pas acceptable. Et on ne doit pas accepter ça, d'autant que les réformes que fait le Macron sont des réformes extrêmement graves, puisque au-delà des cheminots, je pense qu'il faut soutenir les cheminots, et qu'il faut même les soutenir pécuniairement, parce qu'en fait, ce qu'est en train de faire Macron, c'est tout simplement supprimer le service public. Quand on entend quand même Bruno Le Maire expliquer qu'il va faire de la SNCF une société susceptible de faire des bénéfices, excusez-moi, mais moi je n'ai jamais appris qu'un service public était fait pour faire des bénéfices.
Sophie, merci beaucoup pour votre appel sur France Inter. Je reviens à ce que disait Sophie au début de sa question. Il y a quand même un sacré déficit d'image, quoi. Qu'on le veuille ou non, il y a un déficit d'image, Laurent Geoffroy.
Et je crois que dans l'élection, beaucoup d'électeurs sont venus de la gauche. Pas de l'extrême-gauche, mais enfin de la gauche ou du centre-gauche. Et dans son organisation politique, dans son architecture gouvernementale, Emmanuel Macron s'est appuyé sur des ministres, en tout cas dans le domaine économique et social, soit qui sont des technocrates, soit qui sont des gens qui viennent de la droite. Et donc on a le résultat de ça, c'est-à-dire que vous avez un discours plutôt traditionnel qu'on aurait entendu probablement chez Juppé, ou qu'on entendait dans le temps chez Chirac, ou chez Giscard, etc. Et avec simplement certains ministres qui sont moins marqués que d'autres, mais qui ont un discours assez peu politique, qui disent voilà, il y a des problèmes, il faut les résoudre, etc. Et donc vous avez un déséquilibre ou un contraste entre le moment de l'élection où effectivement beaucoup de gens ont voté Macron au premier tour en se disant de toute façon la gauche est dans les choux, donc il vaut mieux voter Macron parce qu'on va empêcher Fillon de passer, et ensuite au deuxième tour, ce qui me paraît quand même assez légitime en tout cas, vu par moi en tout cas, ont voté Macron pour éviter d'avoir un score trop élevé du Front National. Je ne pense pas qu'ils doivent regretter de l'avoir fait. Et donc, y a une distorsion entre le moment de l'élection, qui est le moment de la légitimité quand même, et aujourd'hui où on mène une politique qui est appuyée sur le maire, sur Darmanin, sur des gens qui tiennent des discours qu'on a entendus depuis 40 ans sur les méchants grévistes, l'horrible service public, les impôts qui sont trop élevés, etc. Enfin, toute la ritournelle qu'on connaît par cœur.
Dominique Seux qui voulait répondre.
Oui, en fait, Emmanuel Macron s'est fait élire. Alors, Laurent Geoffrin dit ni gauche, ni gauche, un an plus tard. En fait, c'était surtout...
Citez-moi des mesures de gauche.
C'était surtout sur désidéologiser la politique. Premier élément. Et le deuxième élément, c'est je vais résoudre les problèmes plutôt par la technique. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait De Gaulle en 58, président du Conseil, avant d'être président de la République, avait utilisé des ministres techniques. La gauche et la droite sont décrédibilisées, donc j'utilise. Et là, nous arrivons peut-être à la limite des, non pas des ministres techniques, mais de leur...
Du retour
du débat politique et le fait que les ministres techniques sont un peu désarmés pour, j'allais dire, non pas écrire un roman, le roman de leur réforme, mais raconter, illustrer, décrire. Quoi qu'on pense des réformes, qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais les ministres techniques sont un peu démunis une fois, non pas que l'hiver arrive, mais que... Eh bien, la politique reprend un tout petit peu ses droits. Non pas la politique, d'ailleurs, droite-gauche, parce que le Parti Socialiste, malgré son congrès de ce week-end, ne se fait pas entendre très largement pour l'instant, mais face aux interrogations des Français, à la coalition des mécontentements, et je réponds juste à l'auditrice sur ce plan, sur les mécontentements, il ne faut pas oublier le total des scores du Front National et de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Ces mécontents-là sont encore là. Voilà. Et si Macron échoue, que se passera-t-il?
Mais ce que ça veut dire aussi, juste avant qu'on retourne rapidement au standard retrouver Claude, Laurent Geoffrin, ça veut dire que si le débat redevient plus politique, plus idéologique, ça veut dire que, est-ce que c'est quelque chose que Macron n'a pas vu venir, en fait? Est-ce que la réponse à sa réforme n'est pas du tout la réponse qu'il attendait ou qu'il escomptait? C'est peut-être d'ailleurs
Il a sincèrement espéré que cette distinction
droite-gauche que ça se passe comme d'habitude,
soit dépassée. Fait.
Que ça se passe comme d'habitude au moment de la loi travail,
qui résout
etc.
les questions et qui obtient des résultats et qui est techniquement adéquate et comme ça on dévitalise la discussion droite-gauche.
Mais est-ce qu'il embrasse...
À mon avis, c'est une illusion totale.
Mais est-ce qu'il embrasse finalement le retour de l'idéologie et du politique? On parlait des ordonnances tout à l'heure, effectivement beaucoup moins que prévu. Est-ce que d'une certaine façon, c'est une manière de dire d'accord, lançons-nous dans une bataille politique autour de ce sujet, Dominique Seux?
Je ne crois pas tellement à l'idée selon laquelle le gouvernement a décidé qu'il faut une épreuve de force et que cette épreuve de force soit la plus dure possible pour montrer que, oui, vraiment, ce gouvernement est solide. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Le gouvernement n'avait pas anticipé la réaction, la grève perlée. Ça, ils sont tombés de leur chaise. Il n'avait pas anticipé non plus
que les cadres de la SNCF seraient braqués par le discours tenu initialement, et deuxièmement que les syndicats comme la CFDT ou comme l'UNSA se rangeraient comme un seul homme derrière le CGT et Sud.
Parce que le gouvernement n'a manifestement, et on a commencé par ça tout à l'heure, n'a pas réussi à montrer en quoi sa réforme allait améliorer les transports en France.
Et merci à tous, et portez-vous bien, il n'est que l'heure.